100% d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous, Accent d'Europe entièrement consacré aujourd'hui encore aux suites des attentats de Paris, des attentats qui placent la France mais aussi l'Europe face à de nombreux défis, ceux de la sécurité, de la diplomatie, de la coopération militaire et judiciaire, mais aussi de l'accueil des réfugiés. Il a suffi d'un passeport syrien retrouvé près d'un kamikaze au Stade de France pour que les sirènes du repli sur soi retentissent à nouveau. La Grèce a confirmé empreinte à l'appui que le kamikaze était bien passé par son territoire pour rentrer en Europe. Avec un passeport syrien d'emprunt, vrai ou faux, cela reste à déterminer. En tout cas, partout sur le continent, des voix s'élèvent pour remettre en cause l'accueil des réfugiés jugés potentiellement dangereux. C'est en Allemagne, un pays qui devrait accueillir cette année près d'un million de réfugiés, que le débat a pris le plus d'ampleur. Angela Merkel est contestée, y compris par certains alliés de son parti. L'un affirme, je cite, que Paris change tout. Au-delà de la solidarité des Allemands, des bougies et des fleurs déposées devant l'ambassade de France à la porte de Brandebourg, les citoyens aussi expriment leurs craintes. Reportage à Berlin, signé Déborah Berlioz.
Hier soir encore, de nombreux Allemands sont venus témoigner leur solidarité avec les Français devant l'ambassade à Berlin. Si la peur n'est pas palpable ici, certains, comme Lilia, attendent tout de même des actions fortes du gouvernement.
Je pense qu'il faut fermer les frontières pour mieux contrôler, car si on laisse tout le monde rentrer, on ne peut plus faire la différence entre qui est un demandeur d'asile et qui est un réfugié. Naturellement, les gens ont besoin d'aide, je ne remets pas ça en cause. Mais pour que les événements de Paris ne se répètent pas, il faut vraiment plus de contrôle.
Les attentats ont en effet apporté de l'eau au moulin des opposants à la politique d'Angela Merkel en matière de réfugiés. Plus d'un million de demandeurs d'asile sont attendus en Allemagne pour 2015 et cela inquiète parmi les rangs même de la chancelière. C'est Markus Söder qui a lancé la charge ce week-end dans le journal Die Welt. Il est ministre des Finances en Bavière et membre de la CSU, le parti partenaire de la CDU. Selon lui, les attentats de Paris changent tout et il estime qu'Angela Merkel doit reconnaître que l'ouverture non limitée dans le temps des frontières était une erreur. Philipp Langsfeld, député de la CDU au Bundestag, a soutenu ses propos.
Il est clair pour moi que notre sécurité est liée à la situation à nos frontières, à la situation de notre police et de nos organes de sécurité. Et là, il est clair que l'afflux massif de réfugiés que nous avons eu à nos frontières ces dernières semaines est un problème, un défi.
Pour le député, il est donc nécessaire de mieux maîtriser l'afflux des demandeurs d'asile. Mais le débat ne date pas des attentats. Depuis plusieurs semaines déjà, des membres de la CSU et de la CDU appellent la chancelière à adopter une politique plus stricte envers les réfugiés. 126 membres de la CDU ont ainsi signé une lettre ouverte contre la politique d'ouverture des frontières d'Angela Merkel. Et la semaine dernière, le ministre de l'Intérieur, Thomas de Maizières, a même suggéré un arrêt du regroupement familial pour les réfugiés syriens. Toutefois, la grande majorité des politiques allemands se sont distanciés des propos de Markus Söder ce week-end. Daniel Wesener, responsable du Parti des Verts à Berlin, a été choqué par les déclarations du ministre bavarois.
Mon français n'est pas très bon, mais je pense que dégoûtant est le mot qui convient ici. Monsieur Söder a dit que Paris changeait tout. Je dirais que Paris change beaucoup de choses. Mais ce qui ne change pas, malheureusement, c'est la manière dont Monsieur Söder et d'autres essaient d'instrumentaliser politiquement ce genre d'événement. Et je trouve que c'est un manque de respect envers les victimes.
L'avis de Daniel Wesener fait presque consensus aujourd'hui dans la classe politique allemande. Thomas de Maizière a ainsi appelé ses compatriotes à ne pas faire d'amalgame entre terrorisme et réfugiés. Même le chef de la CSU, Horst Seehofer, pourtant très critique de la chancelière, a jugé les propos de Söder inappropriés. Et pour de nombreux Berlinois, comme pour Hans, les attentats ne doivent certainement pas pousser l'Allemagne à changer sa politique d'asile.
J'espère que les gens vont faire preuve de retenue et ne pas réagir trop vite, notamment en rapport avec la crise des réfugiés. Et je pense encore et toujours que nous ne devons pas fermer nos frontières aux réfugiés et les accueillir à bras ouverts.
Toutefois, de plus en plus d'Allemands se montrent sceptiques envers la politique d'accueil des réfugiés. Selon un récent sondage, 56% de la population juge désormais qu'il y a trop de demandeurs d'asile sur le sol allemand. Et seuls 19% des Allemands estiment que leur pays peut en accueillir davantage. Ils étaient 57% dans ce cas fin août. Et alors que le mouvement anti-immigration Pegida était en perte de vitesse depuis janvier, il semble se raviver ces dernières semaines. Plus de 10 000 personnes ont ainsi défilé avec Pegida dans les rues de Dresde hier soir.
On le sait, les Européens étaient péniblement parvenus à un accord pour relocaliser 160 000 demandeurs d'asile syriens entre les différents pays de l'Union. Eh bien, cet accord vole déjà en éclats. Le parti ultra-conservateur Droit et Justice, qui vient de remporter les élections législatives en Pologne et qui est en train de former son gouvernement, a déjà annoncé que cette répartition n'était plus d'actualité, plus applicable à Varsovie. Maja Szymanowska.
Dès samedi, le nouveau ministre des Affaires européennes, Konrad Szymański, a donné une interview musclée à un site internet. Les décisions que nous avons critiquées du Conseil européen sur la relocalisation des réfugiés et immigrés vers tous les pays de l'UE ont toujours force de droit. Cependant, après les événements tragiques à Paris, nous ne voyons pas la possibilité politique de les respecter. Fin de citation. Selon le nouveau ministre, les attentats de Paris, qui s'inscrivent directement dans le contexte de la crise migratoire et des bombardements français des positions du groupe État islamique, marque la nécessité de revoir la politique européenne face à la crise migratoire. Des paroles fortes qui ont provoqué une levée de boucliers, l'indignation de l'opposition. Le quotidien de l'ancien opposant Adam Michnik parle même de honte. La nouvelle première ministre, Beata Szydło, un peu gênée par la sortie imprévue de son ministre, a préféré ne pas commenter ses propos en soulignant que l'heure pour l'instant était au deuil et à la solidarité avec le peuple français. Beata Szydło a déposé une gerbe de fleurs ce dimanche devant le consulat français de Cracovie et s'est recueilli dans une église en mémoire des victimes des attaques. Le parti Droit et Justice, vainqueur des dernières élections, est pourtant connu pour ses positions radicales sur l'accueil des réfugiés. Le leader de ce parti, l'un des frères jumeaux, Jarosław Kaczyński, n'a pas hésité à renouer durant la campagne électorale avec un langage tout droit issu des années 1930, en agitant le spectre des maladies que pourraient véhiculer les migrants. Il a parlé de choléra qui sévit déjà dans les îles grecques, de dysenterie à Vienne, ou encore de toutes sortes de parasites qui, chez ces gens, peuvent ne pas être dangereux, mais peuvent l'être pour les populations locales. Fin de citation. Encore plus radical, le parti Cookies 2015, de l'ancien rocker du même nom, qui a fait entrer 42 députés dans le nouveau Parlement, présentait sur ses affiches électorales les migrants en costume de djihadistes et vient de préparer un projet de loi pour refuser leur accueil en Pologne.
Et en Bulgarie aussi, après le temps de l'émotion et du deuil, les commentaires fusent sur les réseaux sociaux, bien sûr, mais aussi au sein de la classe politique, de droite comme de gauche, ou bien des experts proches du gouvernement. Beaucoup disent leur peur des migrants à Sofia, Damien Vodanicharov.
Comme partout dans le monde, les Bulgares ont tout de suite réagi sur Facebook et Twitter, avec incrédulité, en exprimant des sympathies et en offrant des condoléances. Ils ont aussi été nombreux à faire le lien entre les attentats et la crise migratoire. L'admission des demandeurs d'asile a tout de suite été remise en question, de même que les idéaux européens de tolérance. Cette idée a été reprise par des politiques de tous bords, comme l'ancienne députée de gauche Tatiana Doncheva. Pour elle, ce n'est pas une guerre contre le terrorisme qui se dessine à l'horizon, mais une guerre de civilisation.
Il est évident qu'il s'agit d'une guerre entre deux mondes. Nous pouvons imaginer que nos valeurs sont ce qu'il y a de plus important, mais il ne faut pas croire que c'est le cas pour tout le monde. On pense que les réfugiés viennent en Europe en raison de ces valeurs, mais c'est faux, et c'est pour le moins stupide. Avec ce qui se passe, il est évident qu'il faut diminuer, voire arrêter l'afflux de réfugiés.
Очевидно трябва да се рязко намали, за да не кажа пресече потока беженци.
D'autres élus vont encore plus loin. Angel Jambaski, député européen du groupe des conservateurs et réformistes, dénonce la réaction de l'Europe face à l'afflux de réfugiés et prophétise une fin de l'Union en tant que telle.
Cette Europe libérale est à genoux, cette Europe avec sa fausse tolérance, ses propos hypocrites, sa bêtise, et qui évite de parler des grands problèmes. Pendant un an, on s'est contenté de faire des déclarations, de réfléchir, et de demander des rapports à Frontex. Et puis, il y a toute l'hypocrisie autour de la soi-disant vague de réfugiés, alors que ce ne sont pas des réfugiés. Il s'agit d'une vague migratoire. Il y a sûrement des combattants qui entrent en Europe.
Des experts de la sécurité nationale se sont également rangés du côté des critiques de la politique européenne. Encore une fois, le manque de fermeté face à l'immigration serait à l'origine des attentats. Il faut tout simplement repousser les migrants, indique Guillaume Gaourov, ancien directeur du service national des enquêtes au ministère de la Justice.
J'aurais fait preuve de fermeté il y a longtemps déjà. Il ne faut laisser passer aucune barque de migrants, même si ça exige une intervention militaire. Je ne dis pas qu'il faut couler les barques ou que ces gens sont coupables, mais il faut de la fermeté. C'est la fin de l'Union européenne telle qu'elle existe en ce moment.
Pour l'instant, le gouvernement bulgare s'est contenté d'imposer un contrôle très strict aux frontières du pays. Le Premier ministre a lui appelé à la vigilance et à la méfiance.
Et face à ces critiques, restent les voix de ceux qui disent que les migrants, les demandeurs d'asile, fuient justement la barbarie terroriste. En Grèce, principal point d'entrée des migrants en Europe, écoutez cette avocate, Elektra Koutra, spécialisée dans la défense des droits de l'homme. Elle est interviewée par Charlotte Stivenard.
Le véritable risque, c'est de propager la haine et le fanatisme. C'est exactement ce qui a causé les attaques terroristes et c'est la même chose qui pousse les réfugiés à prendre une route très dangereuse, au risque de leur vie, pour atteindre un endroit sûr. C'est justement ce fanatisme qui gangrène leur société et les pousse à partir avec leurs enfants et quelques affaires. Ils risquent de se noyer dans la mer Égée pour arriver ici. L'Union européenne devrait faire une campagne très bien argumentée qui informerait sur les véritables raisons qui poussent les réfugiés à quitter leur pays.
C'est
comme ça que les Européens peuvent devenir solidaires, loin de la haine ou de la peur. Car les cibles des terroristes et les réfugiés sont tous victimes des fanatiques, du même groupe de fanatiques. Donc plutôt que de les renvoyer vers ceux qui ont mis les bombes, nous devons montrer une grande solidarité, leur montrer que nous comprenons ce qui leur arrive. Fermer les frontières serait illégal en termes de droit international. Ce serait une violation de nos obligations par rapport à la Convention de Genève, ses protocoles, de la charte au cœur de l'Union européenne et des droits fondamentaux, et enfin du système européen d'asile, qui est un ensemble législatif qui assure les droits des réfugiés.
Ensuring refugee rights.
Plus de sécurité, c'est un des messages que le président français François Hollande a voulu faire passer hier devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès à Versailles. Outre l'état d'urgence décrété sur 3 mois, le chef de l'État envisage la création d'une garde nationale composée de réservistes et souhaiterait la possible déchéance de nationalité pour les binationaux reconnus coupables de terrorisme. Beaucoup d'initiatives ont déjà été prises en 2015. Pour en parler, on retrouve Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Que signifie, Daniel, cet état d'urgence et pourquoi ne l'avait-on pas instauré après les attentats de janvier dernier ?
Les attentats de janvier constituaient une première dans le cadre du terrorisme islamique. Après la neutralisation des coupables et sans doute parce que les cibles visées, rappelez-vous, des journalistes et des citoyens juifs, étaient spécifiques, on n'avait pas jugé nécessaire de recourir à cet état d'urgence, comme on l'avait fait pour 25 départements en 2005 à la suite des graves émeutes en banlieue. Cette fois, les attentats visent l'ensemble de la population et surtout, désormais, plus personne n'ose affirmer qu'il n'y en aura pas d'autres. Quoi qu'il en soit, l'état d'urgence est décrété en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public ou en cas d'événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique. Les mesures prévues de restriction à la circulation des personnes, à l'ouverture des lieux publics, à l'interdiction des manifestations ou encore au pouvoir de perquisition renforcé ne peuvent se prolonger au-delà de 12 jours, sauf à faire adopter par le Parlement une loi fixant la durée définitive de l'état d'urgence. On sait que le président de la République souhaiterait obtenir 3 mois.
Et nos voisins européens disposent-ils d'un tel état d'urgence et quelle liberté d'action est laissée au pouvoir exécutif ?
Partout, mais pas forcément depuis très longtemps. Il existe des équivalents à l'état d'urgence. Dans certains pays, ces mesures sont prises sous le strict contrôle du Parlement. Ainsi, au Royaume-Uni, la loi de 2004 sur les événements civils imprévus permet à la reine de décréter l'urgence, mais la Chambre des communes doit approuver cette décision dans un délai de 7 jours, un peu plus court qu'en France. Par ailleurs, l'urgence est déclarée sous condition de subsidiarité, c'est-à-dire uniquement si la législation courante ne permet pas de faire face à la situation. En Espagne, l'état d'exception est un décret pris en Conseil des ministres, mais après l'autorisation du Congrès des députés. À souligner que le Congrès peut amender le texte et que l'état d'exception ne peut pas durer plus de 30 jours.
Et il y a d'autres pays, Daniel, qui contrôlent beaucoup moins l'action du gouvernement en matière d'état d'urgence.
Oui, par exemple en Italie, où la proclamation de l'état d'urgence fait l'objet d'un décret-loi qui devra être converti en loi, en passant donc par le Parlement, mais seulement dans un délai de 60 jours, soit 2 mois. Ce qui est assez long. Et puis en Allemagne, pays où l'on encadre pourtant strictement l'exécutif, généralement, l'état de crise intérieure est simplement constaté, soit par un Land, soit par le gouvernement fédéral, et le Bundestag n'intervient pas, sauf pour demander la levée de l'état de crise.
Et concernant les mesures antiterroristes, qu'est-ce qui a été fait de nouveau en 2015 ?
Tragique ironie du destin, un an jour pour jour avant les derniers attentats, soit le 13 novembre 2004, une loi avait déjà fortement renforcé les dispositions antiterroristes en France. Elle prévoit notamment de criminaliser les actes préparatoires à des crimes terroristes, instaure un délit d'entreprise terroriste individuelle, interdit la sortie du territoire pour les candidats au djihad en Syrie et en Irak et autorise le blocage des sites internet faisant l'apologie du terrorisme. En juin 2015, le Parlement a adopté une nouvelle loi renforçant les pouvoirs des services de renseignement. Le champ d'application des investigations est élargi aux violences collectives et même à la défense des intérêts économiques, ce qui a suscité des débats intenses au printemps, de même que le contrôle exercé sur les actions de renseignement par le seul juge administratif a été dénoncé comme liberticide. Cette défense des libertés civiles est d'ailleurs d'actualité partout en Europe lorsqu'il s'agit d'intensifier la lutte contre le terrorisme.
Et certains pays ont pris récemment de nouvelles mesures.
Après les attentats de Paris du début de l'année, je dirais pratiquement tous. Il serait un peu fastidieux de rentrer dans le détail des dispositifs nationaux, mais disons qu'ils tournent tous autour de la répression des candidats au voyage en Syrie et en Irak, du renforcement des pouvoirs d'investigation, de la surveillance de l'Internet et des réseaux sociaux, des conditions de retrait de la nationalité. Presque partout, ces lois ont suscité des débats passionnés.
Lesquels, par exemple ?
En Allemagne, à propos de ceux qui s'apprêtent à partir en Syrie, on a beaucoup débattu autour de la possibilité de prouver l'intention de participer à des combats. En Grande-Bretagne, la Haute Cour de justice a même déclaré illégal en juillet dernier le fait de conserver pendant 1 an les enregistrements téléphoniques des particuliers. Et cela alors même que dans ce pays existe un contrôleur indépendant de la législation antiterroriste. En Espagne, on s'est beaucoup ému des condamnations administratives et non plus judiciaires pour perturbation à la sécurité publique ainsi que des expulsions automatiques et collectives d'immigrés. En Belgique, pays dont on constate une fois de plus qu'il est la plaque tournante des réseaux djihadistes, la déchéance de nationalité pour les binationaux nés dans le pays passe très mal. Ce qui n'a d'ailleurs pas dissuadé, il faut le noter, François Hollande d'annoncer hier devant le Parlement réuni en Congrès sa volonté que les binationaux puissent être déchus de leur nationalité française en cas de terrorisme. Enfin, au niveau européen, on sait que le contrôle systématique des données concernant les passagers aériens fait l'objet de discussions sans fin entre le Parlement et le Conseil.
Merci Daniel Vigneron, à la semaine prochaine.
À bientôt Frédéric.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site et sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Dans une poignée de secondes, un nouveau rendez-vous avec l'actualité sur RFI. Pour notre part, on se retrouve dès demain.